C'est très variable. Nous pouvons être amenés à chercher une place pour s'asseoir et parfois à chercher ceux qui sont assis. Chers amis, je me rends compte que l'enregistreur a démarré, alors vous aurez même l'introduction que j'ai voulu faire hors micro. Ce n'est pas grave. Dans notre approche de ce qu'est le disciple de Jésus-Christ, vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'être la voix qui rapporte les paroles du Seigneur, et qu'il est encore plus difficile d'en être commentateur. Pourtant, c'est ainsi que les choses se font, et se font sur toute la face de la terre. Et en tout lieu, il faut que les disciples et ceux qui s'interrogent acceptent les limites et les lacunes, souvent grandes et nombreuses, de ceux qui apportent cette parole. Sachant cela, nous essaierons encore une fois de faire quelques pas, orientés en cela par les paroles que nous avons lues dans Luc au chapitre 14 et que je relirai aujourd'hui au verset 26, 27 et 33. Voici la lecture des paroles mêmes de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Être disciple de Jésus-Christ, nous l'avons vu, c'est le suivre. C'est être soumis aux conditions qu'il a édictées lui-même. Cela fait déjà la quatrième fois que nous parlons du disciple et la chose, je pense, commence à devenir un lieu commun. Je voudrais encore une fois lever tout équivoque concernant la première condition qui est donnée. Cette condition qui apparaît ici avec un mot, un verbe qui nous gêne, qui est le verbe haïr. Et je crois qu'il est bon de se souvenir du texte de Matthieu qui explicite et tempère un tout petit peu ce mot. Lorsque Matthieu dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi », nous sommes influencés par la mentalité, par l'esprit christianisé. L'influence du christianisme à travers les siècles nous marque et marque notre société. Et ce mot de haine nous gêne, alors que chez les juifs, chez les hébreux, dans une langue qui est toute faite de contrastes, eh bien, c'est blanc ou noir, c'est haine ou amour, il n'y a pas de mot intermédiaire. Souvenons-nous toujours de la chose. En exigeant cela comme étant la première condition que Jésus édicte, Jésus ne fait rien d'autre que rappeler le premier commandement donné à Israël, qu'il l'applique à lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et Jésus nous demande de l'aimer par-dessus tout. Il se place au niveau qu'est le sien, mais qui surprend lorsque nous entendons cela prononcé par un homme. Jésus ne fait rien d'autre que cela. Il demande une chose, et je crois que c'est la façon peut-être de traduire ce verset autrement, il demande d'être premier dans l'amour que nous avons à donner. et tout en voulant être en premier. De haine, bien sûr, il n'est pas question, comme dans le sens où nous l'entendons, puisque cet amour que Jésus réclame de tout l'être n'est pas un amour exclusif. Pour preuve, il rappellera souvent « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il mettra les parents au bénéfice des enfants, ce que les pharisiens semblent avoir oublié au profit de leur tradition. Voyez à ce propos Matthieu 15. Il comprend aussi l'amour entre les disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il va même à dire, aimez vos ennemis. Donc l'amour que Jésus demande de nous n'est pas un amour exclusivement réservé à sa personne. Il est la première expression de notre amour. Il est le premier objet de cet attachement. Et lui va conditionner les autres. C'est-à-dire que nous n'allons pas aimer forcément moins, nous allons aimer mieux, nous allons aimer autrement, nous allons aimer d'un amour teinté par l'amour que nous portons à Dieu et que Dieu nous porte. Et nous aimerons le prochain, sous le vocable prochain, j'inclus père, mère, frère et sœur, enfant bien sûr. Nous aimerons le prochain pour ce qu'il est et pour ce que Dieu veut en faire. Car cet amour inclut le projet de Dieu pour notre entourage, pour ceux que Dieu nous a donnés comme proches, comme tout proche. Ainsi, le Seigneur va jusqu'à nous surprendre encore et cela nécessite une mise au point. Car, qu'est-il demandé? Il nous est demandé d'aimer notre prochain. Et si j'ose dire, qui est plus prochain de moi que moi-même? Bien sûr, je ne suis pas mon prochain. Mais je suis directement concerné lorsque le Seigneur dit, si quelqu'un ne hait, l'énumération vient et se termine par, et même sa propre vie. Donc l'amour que je porte à ma personne ne doit pas me couper de l'amour que Jésus réclame de moi. Jésus doit être aimé plus que mon père, que ma mère, que mes frères, que mes sœurs, que ma femme, que mes enfants, plus que je ne m'aime moi-même. Et bien sûr, alors, on comprend la suite. La suite, elle est là. Car tout de suite après, après se aimer sa propre vie, il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors là, là nous abordons un sujet difficile. Luc au chapitre 9, quelques chapitres avant, nous rapporte les paroles de Jésus sur ce même thème. Verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même et se charge chaque jour de sa croix. La formule est devenue bien ambiguë, celle de porter sa croix. Vous le savez tout autant que moi. C'est une formule qui a été déformée dans le temps, comme a été déformée cette autre parole de l'Évangile, « Rendez à César ce qui est à César ». Le monde emploie la formule tronquée, tronquée, car ce que Jésus a voulu dire, c'était surtout « rendez à Dieu ce qui revient à Dieu ». Bien sûr, à César lui revient ce qui est à lui, mais à Dieu, et Dieu n'est pas souvent nommé en matière. Nous pourrions trouver d'autres expressions analogues à celle-là. Mais aujourd'hui, en parlant de maladie, de difficultés, d'épreuves de toute nature. On dit, il faut bien porter sa croix. Mais c'est faux. Cela ne cadre pas avec l'Évangile. Cela ne concorde pas avec les paroles de Jésus. Jésus n'a pas voulu dire que lorsque nous portons tous les maux de la terre et les maux de la nature, nous portons notre croix, ce n'est pas vrai. Pour comprendre, il faut voir la suite. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ah, celui qui porte sa croix et celui qui participe d'une manière directe à ce qu'est Jésus-Christ, à ce qu'est sa vie, à ce qu'est son œuvre, à ce que sont ses souffrances, qui connaîtra la chose dans sa propre existence et qui alors portera sa croix. La croix que nous portons est en rapport avec notre relation au monde lorsque nous sommes disciples de Jésus-Christ, en rapport avec la bonne nouvelle, la personne de Jésus et la bonne nouvelle, dira Marc 8, 35, à cause de moi et de la bonne nouvelle ou de l'Évangile. Vous ne portez pas votre croix parce que vous avez un accident et que vous êtes handicapé, ça n'a rien à voir. Vous portez votre croix lorsque, étant témoin de Jésus-Christ, vous avez à subir les réactions, les outrages de ceux qui vous entourent. Lorsque vous avez à souffrir pour le nom de Christ, là vous portez la croix. Et seulement en cette circonstance. Il ne faut pas se méprendre dans ce sens-là. Ainsi, Jésus vient dire, exiger de ses disciples qu'ils se chargent d'un objet qui aujourd'hui pour nous, bien sûr, ne signifie plus grand-chose, mais pour ceux qui à cette époque, vivant sous l'occupation romaine, voyaient passer dans la ville de Jérusalem des hommes chargés d'une croix, cela signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'ils étaient condamnés à mort, qu'ils avaient été jugés, qu'ils avaient été estimés coupables et qu'ils étaient sanctionnés. Qu'ils aient été coupables ou non, c'est une autre affaire. La personne de Jésus vient prouver que l'on pouvait porter sa croix tout en étant innocent, tout en portant la charge des autres. Et c'est là, alors, que se manifeste notre appartenance à Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur lui-même nous demande. Accepter de remettre sa vie en question, d'être prêt à perdre sa vie à cause de lui, c'est porter sa croix. Cela peut ne pas aller jusqu'à cette limite. Comme disait l'Épître aux Hébreux, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Je ne crois pas que ce soit toujours nécessaire de vouloir résister jusqu'au sang. Mais se heurter à l'opposition entre dans cette prise de conscience de celui qui s'engage à suivre Jésus. Il ne s'engage pas sur une voie de facilité. Et Jésus l'a dit tout de suite. D'ailleurs, lorsqu'il nous demande à nous de porter cette croix, n'a-t-il pas cela consenti, n'y a-t-il pas lui-même consenti avant? Bien sûr, il n'avait pas encore porté la croix lorsqu'il a dit cela. Mais déjà sa vie était l'expression de cette identification à l'être humain. Il va devenir semblable aux hommes, nous dit l'Épître aux Philippiens. Et il pourrait être ici opportun de lire Ésaïe 53, vous connaissez. Philippiens, qui parle de l'abaissement de Jésus, se rendant serviteur, comme un simple homme, obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est cependant dans Hébreux 12 que je vais chercher un texte qui vient appuyer ce qui nous est demandé ici et nous exhorter. Il concerne bien le disciple. Il concerne celui qui suit son maître. Voici dans Hébreux 12 la lecture des versets 1, 2 et 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces témoins qui sont cités au chapitre 11 des Hébreux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus. C'est bien la disposition du disciple qui marche derrière son maître, qui regarde à son maître. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Le texte fait bien allusion à cet engagement du disciple sur le sentier que Jésus a suivi, sentier étouffé d'opposition, de réactions contraires, hostiles, et l'auteur dit, je vous dis cela pour que vous ne vous lassiez pas. Regardez Jésus, regardez ce qu'il a lui-même enduré, et si vous avez, vous, à endurer quelque chose le concernant, à cause de lui, eh bien, ne vous découragez pas. Ne vous lassez pas, c'est dans l'ordre normal des choses. Quel texte que celui-là, les regards sur Jésus. Aller de l'avant, suivre l'exemple du maître sans faillir, c'est difficile. Mais c'est ce que le maître demande. Car dans le texte qui suit ce que nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'il parle de se charger de sa croix et de le suivre, il ajoutera, si vous avez honte de moi devant les hommes, le Fils de l'homme aura honte de vous devant son Père. Puisse notre attitude ne pas faire rougir notre Sauveur, ne pas lui faire avoir honte de nous. Quiconque a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Comment ne pas citer ici la parole de l'apôtre Paul, lorsque en Romains 1, 16, il s'exclamera, « Je n'ai pas honte de l'Évangile !» Cette exclamation triomphale de Paul. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Et il continuera à exposer son idée sur le sujet. Mais je n'ai pas honte est le fruit de la réponse de l'apôtre à Jésus-Christ. De la réponse de cet homme qui a compris ce que renoncer à soi pouvait représenter. Oh, qu'il serait bon de relire les paroles qui se trouvent dans Philippiens au chapitre 4. Oh, je ne sais pas si j'ose, au chapitre 3, je ne sais pas si j'ose le sauter. Il énumère tout ce qui pourrait être pour lui un sujet de gloire, un sujet de valorisation dans Philippiens 3. Il va énumérer toutes ses qualités, son histoire, son passé, sa famille, ses études, sa religiosité, son zèle. Tout cela, au verset 8, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Dans une autre version, il dira, il est transcrit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai renoncé à tout. J'ai tout perdu et je considère que tout cela comme ordure, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec la justice qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Il avait compris qu'il ne pouvait rien mettre sur la balance divine que la justice de Jésus-Christ, dans laquelle il se confiait, que tout le reste, c'était paille, c'était chaud, c'était fumée. Et il acceptait. J'ai tout perdu. Quel exemple. C'est cela, suivre Jésus-Christ. C'est cela, se charger de sa croix, l'apporter jour après jour. Voici encore un passage que je vous cite ici dans 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens au chapitre 11. Cet homme va citer ce qu'il a vécu dans sa mission, dans sa qualité d'apôtre, dans son service de Jésus-Christ. Si vous lisiez, si nous lisions, à partir du verset 22, après qu'il ait énuméré encore une fois d'où il vient, plus ou moins, il va dire, au verset 22, il va dire quelles sont ses origines, mais regardez au verset 23, verset suivant, verset 24, 25, 26, vous verrez, il parle au verset 23, des coups, des emprisonnements. Je saute, je ne lis que les versets. Des emprisonnements, en danger de mort, chez les Juifs. Trois fois il a été battu de verge, lapidé. Il a fait naufrage, etc., etc. Verset 26, en péril sur les fleuves de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. C'est cela, être disciple de Jésus-Christ. C'est cela, porter sa croix. Au nom et pour la personne de Christ. Au nom de l'Évangile. Un Pierre, l'apôtre, exprimera cela d'une autre manière. Lorsque dans une de ces deux épîtres, au chapitre 4, 1 Pierre 4, 16, sauf erreur de ma part, 1 Pierre 4, 16, où il dit, il exhorte ses frères, que nul ne soit, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, verset 15, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Souffrir comme chrétien. Pâtir parce que l'on est disciple de Jésus-Christ est un sujet de gloire. C'est cela, porter sa croix. Curieux que nous puissions chanter, malgré ces exigences humainement effrayante. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux, etc., etc. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut rendre Étienne lapidé, sous les coups, rayonnant d'un éclat céleste. Et sourire, souriant, parce qu'il voyait son sauveur, alors qu'il était en train d'être exécuté avec des pierres. Tout cela parce que Paul n'a pas fait cas de sa vie, comme ça a été le cas de bien d'autres. Peut-être connaissez-vous de nom Hudson Taylor. Peut-être connaissez-vous de nom Adoniram Judson, Maryse Lessor. Les enfants sont en train d'étudier ou d'apprendre la leçon de Gladys Elward, qui eut la vocation de partir en Chine comme missionnaire, qui fut refusée par la mission parce qu'elle n'avait pas d'expérience, parce qu'elle n'était pas formée, et qui, convaincue de l'appel de Dieu, travailla, économisa pour pouvoir se payer le voyage par train, parce qu'il était beaucoup moins cher que par bateau. Mais c'était le train, le transsibérien, s'il vous plaît. Et le monsieur qui vendait les billets dit, mais actuellement il y a la guerre là-bas. Mais il dit, c'est pas grave, parce que quand moi j'aurai économisé l'argent, il n'y aura plus de guerre. Vu le temps qu'il me faudra. Et elle est allée là-bas. Malgré tout, contre vents et marées. Et elle a fait une œuvre extraordinaire. Bien que romancée, vous pouvez trouver ou voir la cassette d'Auberge du Sixième Bonheur qui raconte la vie de cette femme. Romancée, je dis bien, mais au moins qui fait bien apparaître cet attachement à la vocation. Perdre sa vie, c'est la condition pour suivre Jésus-Christ. C'est ça, porter sa croix. Quelle résonance trouve en nous aujourd'hui la parole de Jésus? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quel est notre écho à cette parole? Comment la vivons-nous? Comment l'interprétons-nous? Est-ce que nous nous aimons plus que nous ne l'aimons lui? Est-ce que nous aimons notre réputation plus que nous ne l'aimons lui? Est-ce que nous sommes plus soucieux du quand dira-t-on que du que dira Jésus? Vous voyez la nuance? Est-ce que nous sommes davantage préoccupés par la réaction de notre entourage que par celle de Dieu? Ce sont des questions qui peuvent être embarrassantes. Mais je n'ai pas l'intention d'adoucir le sens de ces paroles. Ce n'est pas ma vocation. J'essaye de les transmettre aussi fidèlement que possible. Et encore, je dois sûrement en réduire le sens. Car entendre cela de la bouche du maître, cela signifiait clairement ce qui était demandé. Disciple, oui, éventuellement nous l'acceptons, mais incognito. Incognito. Sans se faire connaître, c'est le sens du mot incognito. Sans se faire connaître ou sans être reconnu. Garder son incognito, dit le Larousse, c'est l'application que porte une personne à garder secrète son identité. Peut-on envisager un seul instant qu'un disciple de Jésus-Christ s'applique à ne pas faire connaître autour de lui qu'il est disciple de Jésus-Christ? C'est impossible. C'est impossible. Parce que la puissance de la vie est telle qu'on ne peut pas la tenir enfermée, on ne peut pas la museler, on ne peut pas la tenir. Si Dieu nous a donné sa vie, cette vie doit exploser en nous. Elle doit se manifester. Et si nous arrivons à la contenir, alors il y a du souci à se faire. On ne peut pas être de disciple incognito de Jésus-Christ. Ce n'est pas envisageable. Lorsque nous entendons les paroles du Maître, il n'est pas envisageable un seul instant de penser que notre seule manière de vivre notre appartenance à Christ puisse être limitée aux actes, puisse être simplement gestuelle. Et si nous nous appliquons à cela, alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que nous offrons à notre entourage l'image de quelqu'un de bien, de quelqu'un de sympathique, de sociable, de serviable, de fréquentable, quelqu'un de bon commerce, c'est-à-dire l'image d'un saint païen. Car des gens comme ça, il y en a, ça existe. Ce sont des gens bien. Mais si les gens doivent voir ce que nous sommes et glorifier Dieu, alors là, c'est plus la même chose. Ce n'est pas pour notre propre gloire que nous devons vivre ainsi, d'une manière agréable avec les gens. Nous devons vivre ces différentes qualités parce que Jésus-Christ nous en a rendus capables, pour que eux connaissent en lui les mêmes possibilités. Pas pour que notre gloriole, pas pour qu'on nous vante dans le voisinage en disant « qu'est-ce qu'ils sont bien ces gens-là » Oui, ils sont bien. S'ils ne disent jamais rien, ils sont toujours très bien. Mais ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Et faites-vous les porteurs des paroles de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de lui, ni de son évangile. Déclarez ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Si vous êtes tel, c'est parce que la grâce de Dieu est entrée dans votre vie. C'est parce que cette grâce vous accompagne tous les jours et fait de vous quelqu'un de différent des autres. Cette différence que les autres constatent, ils doivent savoir d'où elle vient. Elle ne vient pas de vous. Si vous ne leur dites pas, ils vont vous encenser parce que vous êtes comme ça. Parce que vous êtes impeccable. Formidable. Mais c'est terrifiant de recevoir un témoignage pareil. C'est le sens du mot formidable d'ailleurs. C'est terrifiant. Parce que nous n'avons pas droit à ces éloges. C'est le Seigneur qui a droit. Puisque c'est lui qui nous rend capables de faire les choses. Croire en son cœur que Jésus est le Sauveur est accompagné de confesser de la bouche. Romains 10, versets 9 et 10. Le Seigneur a totalement exclu le témoignage muet, sauf ceux qui ne peuvent pas parler. Mais à partir du moment où nous avons l'usage de la langue, nous devons en faire usage. Car le Seigneur a dit, « Vous serez mes témoins pour raconter ce que je vous ai fait. » Pour le dire, pas pour le taire. Ayez le langage qui reflète le sien. Dénoncez le péché, comme il le fait, en proclamant aussi le pardon, car Jésus a accompagné ses paroles d'espérance. Pardon pour quiconque croit en lui et se repent de son péché. Dites cela à votre entourage, et vous allez voir qu'il va s'en suivre deux choses. Il y a deux éventualités, ou une éventualité. Ou vous vous heurtez à l'opposition, ou au contraire, vous provoquez une adhésion. Il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est notre vocation d'être témoin. Et c'est notre manière, en annonçant l'évangile, de nous charger de la croix et d'être témoins auprès de ceux qui nous entourent, vers lesquels Dieu nous a placés et à qui nous devons dire ce que nous sommes et comment nous le sommes devenus. Si nous ne le faisons pas, nous courons un risque énorme, celui de désavouer même la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas miser sur une autre éventualité. Envisager une autre solution, c'est dévoyer l'évangile. Et c'est se fourvoyer soi-même. Il n'existe pas d'évangile facile. L'évangile ne s'accommode pas de la tendance light. Ça n'existe pas. L'évangile d'il y a 2000 ans est encore le même aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vu l'influence de la société, il faut être lisse. Il ne faut pas présenter d'aspérité. Il faut pouvoir passer sans faire de vagues. Alors, on vous adule. On vous apprécie, vous êtes formidable, mais Jésus-Christ fait des vagues partout où il passe. Et si vous ne faites pas de vagues, il est probable que le Seigneur n'est pas très près. Excusez-moi de le dire ainsi. Je ne lis pas autre chose dans le texte biblique. Jésus fait toujours des vagues. Je vais conclure en pensant encore à cette tendance à vivre l'évangile incognito. Permettez-moi de vous rappeler que dans Actes chapitre 4, nous trouvons la comparution des apôtres devant la Cour suprême d'Israël. Les choses vont mal. Le Sanhédrin n'apprécie pas du tout la prédication de l'Évangile. Mais le texte nous dit qu'ils vont menacer, chapitre 4, verset 17, que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous appelle tel si vous êtes disciple de Jésus-Christ. Si vous ne l'êtes pas, fermez vos oreilles. Si nous nous réclamons du nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons lu, entendu, vécu. C'est impossible! Porter sa croix va se manifester ici par des menaces. Au chapitre suivant, verset 40, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple, et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la voie. Il n'y en a pas d'autre. La menace vous fait-elle craindre? On peut le comprendre. Mais on ne doit pas en tenir compte. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les coups vous font-ils reculer? On peut le comprendre. Mais il vaut peut-être mieux les coups subis à cause du nom de Jésus-Christ qu'une désapprobation de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. L'évangile n'a pas changé. Nous sommes au 21e siècle, je suis d'accord. Mais le texte n'est pas à mettre à jour. C'est nous qui devons nous mettre à jour par rapport à lui. Ils reconnurent, nous dit le texte au chapitre 4, les apôtres pour avoir été avec Jésus. Ce que nous côtoyons, ce que nous voyons, ce qui nous entendent, reconnaissent-ils en nous, les hommes, les femmes, qui ont été avec Jésus? C'est là la question. Pour être reconnu comme ayant été avec Jésus, permettez-moi de dire qu'il faut passer du temps avec Jésus. Qu'il faut le rencontrer et passer du temps avec lui. Si vous voulez que sa doctrine, que son enseignement, que sa vie se manifeste dans la vôtre, vous devez le côtoyer, vous devez vivre proche de lui. Alors, on sentira le parfum quand on vous rencontrera. Ben oui, mes amis, il n'y a pas d'autre façon, ou alors c'est de l'emprunt. C'est du mimétisme, c'est du cinéma ou du théâtre. Alors, il nous faut accepter cette évidence. Porter sa croix fait partie de notre condition de disciple, mais c'est subir à cause de Jésus quelque chose. Et peut-être qu'il faudrait que nous acceptions le sobriquet qui a été donné aux disciples de Jésus-Christ à Antioche lorsqu'on les appelait des chrétiens. On a le mot chrétien aujourd'hui, bien sûr, mais qu'il faut expliquer parce qu'il ne signifie plus rien aujourd'hui. Vous arrêtez n'importe qui dans la rue, il est chrétien. Et il faut expliquer ce que c'est qu'un chrétien. Alors prenez le temps de le faire. Et pour bien le faire, prenez le temps de le montrer et de l'expliquer. Que Dieu nous aide à comprendre cette exigence et à la vivre avec lui.